L'heure du journal avec vous, Alexandra Dubouchereau. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Le masque obligatoire face au rebond de l'épidémie de coronavirus, il se généralise en théorie. En tout cas, à Paris, rares sont les habitants ou touristes au courant. La mairie promet plus de communication. Les masques à l'extérieur, mais aussi en lieu clos, car ce sont les points de départ des foyers épidémiques, alerte le médecin Jérôme Marty, qui milite pour le masque en entreprise, vous l'entendrez. Nous irons aussi à Lourdes pour le pèlerinage du 15 août, à l'heure du coronavirus, en Biélorussie où les manifestants redoutent désormais l'intervention de l'allié russe, et en Grèce à la découverte du Parthénon des naufrages, le premier musée sous-marin du pays. Le football et Lyon va-t-il rejoindre le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions? C'est la question ce soir, duel avec Manchester City à 21h, décryptage avec Cédric Guillou en studio avec nous. Et le coup de gueule, vous l'entendrez, de Thibaut Pinot après plusieurs chutes aujourd'hui sur le critérium du Dauphiné. Vigilance canicule levée dans l'est de la France, mais attention désormais aux orages et à la grêle à l'ouest. 11 départements sont en alerte orange. Point météo complet à la fin du journal.
France Inter.
C'est devenu l'accessoire indispensable de l'été. Le masque s'impose de plus en plus dans de plus en plus de villes. À Paris, l'obligation a même été étendue hier. La capitale, comme les Bouches-du-Rhône d'ailleurs, est désormais considérée comme une zone active de circulation du virus, avec 260 nouveaux cas de contamination par jour sur 2800 à l'échelle du pays. Des quartiers entiers sont maintenant concernés par le port du masque dans la capitale, comme autour de la Tour Eiffel, du Louvre ou encore des Champs-Élysées. Mais encore faut-il le savoir. Léo Téchard cher à arpenter les rues de Paris, et les passants ne sont pas toujours au courant, faute de signalisation.
Première étape autour de la maison de la radio, quelques passants avec un masque sur le coude.
J'ai pas vu d'affiche qui disait que c'était obligatoire dans cette rue.
Direction ensuite le Trocadéro, le pont d'Iéna, puis sous la tour Eiffel.
Est-ce que vous saviez, madame, que le port du masque est obligatoire ici?
Ah non.
On est monté à la tour Eiffel.
Et en redescendant, personne ne vous a dit qu'il fallait en mettre un?
Et non.
Même refrain sur le Champ de Mars, ou en remontant vers les quais, la moitié des piétons ne connaît pas cette nouvelle obligation. Encore plus compliqué pour les touristes étrangers comme cet Allemand.
Personne ne m'a rien dit. Il n'y a pas de panneau, pas de policiers, rien, juste vous qui m'avez prévenu. Il n'y a personne, ou alors pas grand monde, qui porte un masque ici.
Sur les Champs-Élysées, là, le port du masque est plutôt respecté, plus par automatisme que par connaissance de l'obligation.
On a même posé une question à un policier. Le masque, voilà, qu'on l'avait là.
Sous le menton.
Il nous a rien dit.
Les policiers ne sont pas là pour ça, mais les agents de la ville ne sont pas là du tout. Toujours pas d'affichage non plus, ça va se faire progressivement, répond l'adjointe à la maire de Paris en charge de la santé, Anne Souiris.
Ça, c'est la première phase. Vous allez avoir des affiches et tout ce qu'il faut très rapidement, mais il n'y a pas de contraventions qui vont avoir lieu aujourd'hui.
Première phase donc pédagogique, avant les 135 euros d'amende si vous ne portez pas le masque dans les nouvelles zones concernées. Une zone qui pourrait d'ailleurs s'étendre à toute la capitale si la situation se dégrade encore ces prochains jours.
Et à défaut de signalisation, si vous voulez savoir quels quartiers sont concernés par le port obligatoire du masque à Paris, la carte est sur franceinter.fr. Et qu'en est-il au bureau? C'est bientôt la fin des vacances et de plus en plus de voix s'élèvent pour rendre le masque obligatoire en entreprise à la rentrée. L'exécutif pourrait trancher la semaine prochaine. Lui le préconise dans tous les lieux clos. Le médecin généraliste Jérôme Marty, également président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre. Il a co-signé une tribune dans ce sens hier dans le journal Libération.
Ce que l'on sait depuis maintenant des mois, c'est que les points de départ des foyers épidémiques, des fameux clusters, se font en lieu clos. C'est pour cela qu'il faut impérativement que l'on porte le masque à l'intérieur, puisque à l'intérieur, il y a de la suspension de particules virales, c'est-à-dire du virus qui reste en l'air, qui flotte dans l'air, quand l'air n'est pas renouvelé, avec un risque que l'ensemble des personnes qui se trouvent dans ce lieu clos à cet instant respirent ce virus et se contaminent.
Le port du masque en entreprise, donc, est-ce que c'est un enjeu crucial pour les jours et les semaines qui viennent, notamment après les retours de vacances?
C'est un enjeu primordial, tant sur le plan sanitaire que sur le plan économique. Ce que l'on veut éviter à tout prix, c'est à la fois une reprise importante de l'épidémie, et donc des gens hospitalisés et des gens en réanimation, et puis l'impact économique. On sait que le pays va souffrir, en particulier en septembre, octobre, etc. Et on ne veut pas qu'il y ait des entreprises qui soient obligées de fermer parce qu'elles ont des clusters en leur sein. Pour éviter cela, il faut impérativement deux mesures, à la fois que l'on porte les masques en lieu clos et donc dans les entreprises, et puis que l'on aère, qu'on ouvre largement et que l'on change l'air des lieux où l'on travaille.
Jérôme Marty avec Jules Dequisse, le médecin qui réagit aussi à l'autorisation donnée au Puy du Fou en Vendée d'accueillir 9000 spectateurs ce soir pour sa cinécénie, alors que la jauge est à 5000 officiellement. C'est difficile de justifier une telle dérogation, car même avec un masque, selon lui, le risque c'est de se toucher. Pas de dérogation en revanche aujourd'hui pour les catholiques à Lourdes, le pèlerinage et les célébrations de l'Assomption, traditionnel temps fort du 15 août en France. Cette année, à l'heure du coronavirus, de nombreux malades ont renoncé aux déplacements. Et comme un soutien aux fidèles français, la messe a été célébrée ce matin par le numéro 2 du Vatican, le cardinal Parolin, qui a appelé à l'espérance face à l'obscurité et la peur dans le monde, en référence à la pandémie. Une messe masquée, bien sûr, mais surtout en petit comité, en quelque sorte, Thomas Cognac.
Seulement 5000 personnes dans la basilique Saint-Pie-X contre 25 000 d'habitude, ça fait forcément un vide, mais ça n'empêche pas la foi de Christine venue de Nantes.
Eh ben, c'est une très belle cérémonie qui a été très forte, je pense, en émotion, parce que on a essentiellement pensé à tous ceux qui n'étaient pas présents.
Charge ensuite à son amie Françoise de raconter tout ça aux absents.
Des coups de téléphone fréquents, des envois de messages électroniques, des photos avec WhatsApp, et voilà, donc tout en étant virtuel, c'est quand même réel.
Et malgré les risques, Michel et Marie-Thérèse, veste bleue des pèlerins sur le dos, n'auraient raté ça pour rien au monde.
On ne peut pas envisager de ne pas venir à Lourdes pour le pèlerinage national.
Il y a forcément une confiance absolue parce que la Vierge est ici et elle ne peut pas faire autre chose que nous accueillir. Donc on n'a pas peur.
Des restrictions dans la basilique donc, et aussi quelques mètres plus loin devant la grotte. Impossible d'y entrer et de toucher le rocher comme Nicole le fait tous les ans depuis 25 ans.
On ne peut pas avoir accès à passer sous la grotte pour donner nos intentions de prière déjà. Je suis un petit peu déçue. Je m'en vais acheter des cierges pour les mettre à brûler. J'espère que ça va marcher.
Et cette année, les prières passent aussi par Internet pour tous ceux qui ne peuvent pas venir. Le sanctuaire a lancé un e-pèlerinage. Les fidèles reçoivent chaque jour un mail avec des photos et vidéos.
Un reportage France Bleu Béarn de Thomas Coignac. Les cérémonies s'achèveront lundi à Lourdes. Une aide financière pour les marchands de journaux indépendants touchés par la crise sanitaire et les difficultés de l'ex-groupe de distribution Prestalis. Ils vont toucher un versement unique de 1 500 à 3 000 euros selon les villes. C'est ce qu'indique un décret publié aujourd'hui au journal officiel. Et puis toujours au journal officiel, à partir du 1er septembre, les particuliers employeurs devront de nouveau payer à 100% leurs salariés à domicile et assistantes maternelles. Fin du dispositif exceptionnel d'activité partielle mis en place en mars dernier. Le coronavirus sur la planète, les Algériens redécouvrent les joies de la plage et des cafés aujourd'hui, après 5 mois de fermeture et ouverture aussi des mosquées. Alors que la Corée du Sud, elle, durcit ses mesures face au rebond des contaminations. Retour des rencontres sportives à huis clos à Séoul. Et puis malgré le scepticisme des scientifiques occidentaux, Moscou affirme aujourd'hui avoir produit son vaccin Sputnik V. Il doit à présent être testé par des volontaires. Vladimir Poutine avait promis mardi un vaccin efficace d'ici septembre. Le président russe qui s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue et allié biélorusse Alexandre Loukachenko après sa réélection contestée du week-end dernier. Ce dernier l'a en quelque sorte appelé à l'aide, évoquant une menace qui viserait toute la région. En réponse, le Kremlin se dit confiant dans une résolution rapide de la crise. Mais dans les rues de Minsk, où la contestation se poursuit pour le 6e jour de suite, on craint désormais le spectre d'une intervention russe, à l'image de ce manifestant, joint par téléphone depuis la France par Antoine Balandra.
Notre unique et simple exigence, c'est le départ de Loukachenko et que tous les responsables de la répression soient punis. Personnellement, je veux aussi des élections honnêtes. Mais aujourd'hui est arrivée une nouvelle pas très agréable, c'est que Loukachenko s'est entretenu avec Poutine pour que Poutine ou la Russie le soutiennent. Dans ce cas-là, nous espérons beaucoup une réaction de la communauté internationale, notamment de l'OTAN si les forces russes entraient en Biélorussie. Dans ce cas-là, nous résistons. Resteront bien sûr, mais ce ne seront plus des protestations pacifiques, mais une résistance à l'occupation. Et je ne suis pas convaincu que nous pourrons résister aux forces russes.
Ce soir, quelques 3000 personnes sont rassemblées devant le siège de la télévision publique dans la capitale biélorusse. Et cet après-midi, Alexandre Loukachenko a rejeté une proposition de médiation étrangère venue de la Pologne, de la Lettonie et de la Lituanie. À l'île Maurice, le navire japonais échoué vient de se scinder en deux. C'était la crainte des autorités, même si une grande majorité des réservoirs a pu être pompée à temps. En 3 semaines, on estime que quelques 1000 tonnes de fuel se sont déversées sur les côtes mauriciennes. Le ministre français des Outre-mer, Sébastien Lecornu est attendu sur place demain pour superviser le dispositif envoyé par la France. En Grèce aussi, un bateau a chaviré. Il a coulé même, mais c'était au 5e siècle avant Jésus-Christ et il était chargé de vin. Et aujourd'hui, il se visite comme un site archéologique. Alors forcément, pour le voir, il faut enfiler des palmes et des bouteilles d'oxygène et se rendre en mer Égée, au large de l'île d'Alonissos. Angélique Kourounis a assisté à son inauguration en grande pompe.
Tout le monde est là, le préfet, les pêcheurs, les archéologues. Personne ne veut louper cette inauguration spéciale d'un naufrage vieux de 2500 ans, devenu musée sous-marin. Pour l'occasion, c'est Sakis Louvas, vedette du showbiz, qui plonge en apnée à plus de 20 mètres de profondeur pour couper le cordon inaugural. Comme tous les plongeurs, il est sous le charme.
C'est une expérience fantastique. Ces fonds marins sont uniques. J'espère que nous pourrons découvrir d'autres trésors sous-marins grecs prochainement.
Ce qui est extraordinaire, c'est les quelques 3 à 4000 amphores intactes, sagement rangées sur les 4 strates empilées telles qu'elles avaient été chargées avec leur nectar il y a 25 siècles. Bien qu'il n'y ait pratiquement plus aucune trace du bateau qui les transportait, ce naufrage, appelé naufrage du Peristera, du nom de l'île la plus proche près de laquelle il a été découvert en 1985 par un pêcheur, est désormais classé au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. La maquette de ce naufrage est reproduite dans un musée tout près de la station de plongée. Pour les malvoyants et ceux et celles qui n'aiment pas trop la plongée, il restera ouvert si tout va bien jusqu'à la mi-septembre. À Alonissos, Angélique Kournis, France Inter.
Et ce musée devrait être ouvert jusqu'au 3 octobre.
France Inter.
Manchester City, voilà l'énorme défi qui attend les Lyonnais ce soir au stade de la Luz à Lisbonne, quart de finale de la Ligue des Champions de football, un match à élimination directe, c'est le format cette année, vous le savez, à cause du coronavirus. Cela fait 10 ans que l'OL attend une qualification en demi-finale. Cédric Guillou, bonsoir.
Bonsoir Alexandra.
Du service des sports de Radio France. On ne va pas se mentir, sur la route du rêve, Cédric, il y a la redoutable équipe anglaise menée par Pep Guardiola. Alors avec vous, on va peser le pour et le contre. Le contre d'abord, on n'a aucune chance ce soir.
Oui, c'est un peu ça, parce que quand on regarde Manchester City, c'est l'une des plus belles formations en Europe, alors qu'il a été devancé, certes par Liverpool pour le titre en première ligue, mais les Citizens ont longtemps mené la vie dure aux Reds durant la saison. Manchester City, vous le disiez, entraîné par Pep Guardiola, c'est l'un des entraîneurs les plus réputés aujourd'hui, un Catalan de 49 ans, révélé au FC Barcelone, qui a gagné notamment 2 titres de champion d'Angleterre avec Manchester City, l'équipe anglaise qui est tout simplement invaincue cette saison en Ligue des Champions. 6 victoires de match nul en phase de poule, dont un succès, 5-1 contre l'Atalanta de Bergame, que le Paris Saint-Germain a eu beaucoup de mal à battre, vous le savez, mercredi soir. Et puis Manchester City a également gagné 2 fois en 8e de finale contre le Real Madrid de Zinedine Zidane.
Voilà pour le contre et pour le pour. Maintenant, sur le papier, Lyon n'est pas favori, mais il a déjà battu les Citizens et c'était il n'y a pas très longtemps, Cédric.
Oui, c'était il y a moins de 2 ans, en septembre 2018, en phase de poule de cette Ligue des Champions. Les Lyonnais, qui étaient entraînés à l'époque par Bruno Genesio, avaient renversé les Anglais chez eux à l'Etihad Stadium, là où d'ailleurs aucun club français n'avait encore jamais gagné. Certains joueurs de l'OL présents il y a 2 ans seront d'ailleurs encore sur la pelouse ce soir. Une autre raison d'être optimiste, c'est que Lyon a fait bonne impression lors de la finale de la Coupe de la Ligue en tenant tête au Paris Saint-Germain. On a vu les Lyonnais au point, notamment physiquement. Et puis, il y a le format de cette Ligue des Champions, vous en parliez Alexandra, Ligue des Champions inédite, qui peut avantager l'OL, parce que sur un match, on a envie de dire que tout est possible, et l'équipe moins forte sur le papier peut créer la sensation.
Voilà, tout est possible, c'est dit, on a envie d'y croire. Merci Cédric Guillou. Coup d'envoi à 21h pour ce Lyon-Manchester City en Ligue des Champions. Et si on gagne, l'image sera belle de club de Ligue 1, Lyon et le PSG en demi-finale. L'image est moins belle en revanche en ce moment du côté du vélo, chute et abandon à répétition. Après le dramatique accident de Jakobsen sur le Tour de Pologne début août, le favori belge Evenepoel a basculé au-dessus d'un parapet et dans le vide aujourd'hui sur le Tour de Lombardie. Conscient, il a été transporté en urgence à l'hôpital. Et puis la série noire, c'était aussi sur le critérium du Dauphiné. 4e étape aujourd'hui entre Ugine et Megève, remportée par l'Allemand Lennart Kamna. Mais surtout, marqué par plusieurs chutes, dont une qui a entraîné l'abandon pour blessure de Krijnsvik et de Boermann, respectivement 3e et 4e du Tour de France 2019. C'était dans la descente du col du Plan plan bois et au même endroit, juste après, c'est Thibaut Pinot qui est tombé. Le Français deuxième au général n'a rien, mais il met en cause la qualité de la route et les organisateurs.
Moi j'ai eu de la chance, j'ai fait un beau soleil, mais j'ai pas grand chose par rapport à la chute que j'ai fait, donc on va dire que je m'en sors vraiment très bien. Ouais. Mais bien sûr que j'ai eu peur, et même si j'ai quelques égratignures, c'est surtout psychologiquement que ça laisse des traces, une chute dans les descentes, ça laisse toujours des traces, et on a fait l'entraînement nous au mois de juillet, bah, nous on pensait vraiment que j'allais la refaire, hein. On s'est dit c'est impossible qu'une course de vélo passe sur une route comme ça, donc c'est limite praticable en VTT, mais en vélo de course c'est pas possible, donc on était placé dans les 10 premiers, et le premier virage, il y a Creusval, je crois, qui glisse dans les graviers et il nous amène dedans. Donc c'est dommage d'une chute comme ça sur une aussi belle course.
Des propos recueillis par Fanny Lechevestrier à Megève pour France Inter. Thibaut Pinot espère détrôner Primož Roglič demain. Dernière étape avec 7 cols au total sur le critérium du Dauphiné. Et puis à noter aussi le forfait d'Egan Bernal, vainqueur du Tour de France 2019. Il souffre du dos. Du vélo à la route, la transition est facile. On a compté 700 km de bouchons cumulés aujourd'hui à midi en France pour le début du week-end du 15 août. Ce sera plus simple demain pour les départs. C'est vert partout en France, sauf orange sur l'arc méditerranéen. En revanche, orange partout dans l'Hexagone pour les retours et même rouge en Auvergne-Rhône-Alpes. Le temps, les prévisions sont signées. Jean-Pierre Hameau de Météo France ce soir avec Jean-Pierre, une alerte orange aux orages pour 11 départements à l'ouest.
Associée à une dépression se creusant sur le proche Atlantique, une nouvelle vague orageuse est attendue ce soir et la nuit prochaine tout le long de la façade atlantique entre la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. Ces orages vont progresser dans l'intérieur des terres au fil des heures. Nous allons les retrouver demain matin de la Normandie à l'Île-de-France, mais aussi de la région centre jusque vers l'Auvergne. Les pluies associées seront parfois soutenues avec en prime de fortes bourrasques de vent. Votre matinée restera ensoleillée dans le nord et sur une grande moitié est du pays, excepté en basse vallée du Rhône, où la grisaille et la bruine seront au rendez-vous. Et puis en allant vers l'ouest et le sud-ouest, prévoyez un ciel nuageux, lâchant quelques averses par endroit. L'après-midi, nos orages vont gagner le nord et une bonne moitié est du pays. Attention, ils seront là aussi localement violents. Dans les autres régions, prévoyez un ciel variable, plus chargé dans le nord-ouest avec des averses. Et puis l'ensoleillement sera généreux autour de la Méditerranée. Les températures maximales évolueront généralement entre 20 et 26 degrés. Elles seront plus chaudes dans le nord-est et le sud et voisines de 30 degrés.